Bien, on va commencer par les présentations. Oui. Je te laisse te présenter comme tu veux.
Donc moi, je suis Melraine Laviec. Je suis interprète en langue des signes française et en parallèle, je suis aussi comédienne.
Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'apprendre la langue des signes française et qu'est-ce qui t'a conduit sur ce chemin-là ?
Alors, c'est un petit peu mystérieux puisque je ne sais pas de quand date ma fascination pour la langue des signes. Donc depuis toute petite, on n'arrive pas trop à savoir qu'est-ce qui a déclenché ça. Mais depuis très longtemps, j'attendais ce moment où j'allais pouvoir aller à la rencontre des sourds et d'apprendre la langue. Et c'est un hasard, une bonne étoile qui est venue sur ma route et j'ai rencontré une interprète qui est venue faire un stage tout près de chez moi, de chez des voisins qui sont réalisateurs. Et elle m'a donné toutes les clés, les conseils pour pouvoir suivre une bonne formation. Donc je suis partie à Paris en formation en LSF, dans une association qui s'appelle Visuel Langue des Signes. Et puis j'étais toute jeune puisque je sortais à peine du baccalauréat. Et quand je suis revenue, je me suis dit qu'il faut absolument que j'en fasse quelque chose, mon métier. Et surtout, j'avais envie d'abord de voir la communauté des sourds et sourdes de Bretagne, voir quelles étaient vraiment... ces personnes, les besoins, etc. Et de fil en aiguille, à un moment donné, on m'a dit « mais il y a besoin d'interprètes, c'est vas-y ». Donc j'hésitais encore pour ce métier et puis ça y est, j'ai pris la décision. J'ai suivi la formation, la première année à Lille et la deuxième à Paris.
Donc une formation en interprétariat ?
Voilà, c'est ça. En fait, c'est pas parce qu'on est bilingue en LSF qu'on est en capacité d'interpréter de la même manière que... si on est capable de parler anglais ou d'autres langues, l'interprétation, ça nécessite un mécanisme vraiment cérébral, mental. Il y a tout un travail de mémorisation qui demande à être rodé. Et puis, il y a bien sûr plein d'autres éléments, la déontologie, etc. Donc, c'est un niveau Bac plus 5, c'est un master professionnel. Donc, il faut arriver avec déjà un niveau vraiment, être vraiment bilingue, très à l'aise. Et puis aussi... moi, c'est ce que j'estime, il y a une capacité à avoir une posture, une distance vis-à-vis de la communication. C'est-à-dire de vraiment sentir qu'on est là uniquement pour les personnes, d'un côté comme de l'autre. On est un outil, avant tout.
Et comment tu es devenue bilingue ?
Alors, quand je suis revenue en Bretagne, j'ai suivi une formation, là c'était une licence de breton, puisque pareil, depuis très longtemps, le breton fait partie de mon entourage, ma famille, etc. Donc c'était ces deux langues qui m'appelaient, je savais que j'allais devoir plonger dedans. Et donc, en revenant en Bretagne, je me suis dit, j'ai d'abord besoin d'aller vers le breton, et à travers le breton... il y a la langue des signes qui est revenue, puisque je faisais un peu les allers-retours, c'est un peu compliqué d'aller dans les détails, mais j'ai participé à des associations de sourds et sourdes. J'étais notamment secrétaire de l'association des sourds de Bretagne pour l'organisation d'événements comme la Journée mondiale des sourds qui a lieu en septembre tous les ans. Et puis, par le bénévolat, par le quotidien, des loisirs, des événements, vraiment toute une quantité de temps de rencontre informelle. À un moment donné, on rentre vraiment dans une manière de communiquer et presque d'être, de percevoir. C'est pas du tout la même manière de l'humour, des choses comme ça. Il y a vraiment plein d'éléments. Vraiment, c'est une culture. Et donc, il y a une immersion qui peut se faire, pour moi, uniquement en contact. Et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé pour n'importe quelle langue. Il faut vraiment aller dans un pays... comme il n'y a pas de pays de sourds et sourdes ici, il faut vraiment faire la démarche. Donc il faut trouver un peu les niches, les endroits où les gens se retrouvent. Voilà. Et donc c'est au fur et à mesure, je dirais, au fur et à mesure des années. Donc je ne me suis pas mise vraiment à 200% sur ce chemin-là au départ. J'avais vraiment envie d'aller vers le breton. Parce que voilà, c'était un besoin à ce moment-là. Et puis après des allers-retours entre les deux... les deux communautés, on va dire, de locuteurs. Et ça s'est construit et aujourd'hui, tout se rejoint avec le travail que je fais.
Comment fonctionne la langue ? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu quelle est sa structure et son fonctionnement lexical, grammatical ?
Alors moi, je ne suis pas linguiste. Par contre, j'avoue que je suis passionnée par la linguistique. Depuis longtemps aussi, dans ma formation en breton, on avait des formations qui concernent toutes les langues. Et ce qui est très intéressant avec le fonctionnement de la langue des signes française et des langues des signes, c'est qu'on retrouve toujours ce que un linguiste français a découvert, en tout cas a mis en valeur, c'est l'iconicité. Et c'est vraiment sur cette... c'est très compliqué à l'expliquer, mais en fait, c'est une structuration de la langue qui part de la pensée visuelle, des images. Et donc, une phrase ne peut pas s'écrire de la même manière que dans une langue orale, ou vocale plutôt, avec un enchaînement de sons, puisque grâce à l'espace et au visage, à la posture, au mouvement des mains, etc., on a la possibilité d'écrire, enfin, en tout cas de s'exprimer en trois dimensions. Ce qui fait qu'on peut placer des signes dans l'espace, en placer d'autres, et comme il y a une mémoire du placement d'un signe, on peut faire des phrases puisque les sujets ou les verbes sont en fait toujours en visuel, en tout cas en mémoire visuelle. Et donc le piège, c'est que les gens pensent que la langue des signes française ou les langues des signes sont pauvres puisque soit ils suivent une labialisation qui est liée en vraiment à autre chose, c'est l'éducation, voilà, c'est vraiment encore une parenthèse que je pourrais développer plus tard, mais... Les signes standards, ce qu'on appelle les signes standards, c'est à peu près l'équivalent des mots qu'on trouve dans le dictionnaire. Et pour construire des phrases, il faut vraiment être à la rencontre des sourds pour comprendre comment un signe, selon la vitesse, la tension, l'amplitude, va prendre un autre sens qui va représenter par exemple des adverbes, des adjectifs. Donc de l'extérieur, on se dit c'est un signe, c'est toujours le même, mais... parce qu'il faut percevoir toutes ces nuances. Et ça permet de dire des choses à une vitesse incroyable. Et c'est aussi pour ça que le métier d'interprète demande vraiment une formation. Parce que quand on traduit vers le français, la structure est tellement différente. On peut vraiment commencer une phrase par le signe qu'on veut. Après, on va quand même plutôt avoir une logique visuelle, c'est-à-dire qu'on va placer un contexte, des personnes ou des structures, quand on parle d'un... parti politique, on peut vraiment parler de absolument tous les sujets, d'un concept, etc. Et ensuite, on va plus être dans la conjugaison ou la description. Mais comme évidemment, au fur et à mesure des phrases, on doit recréer un nouvel espace, ce qu'on appelle l'espace de signation, on le redessine. On arrive comme ça à enchaîner des phrases. C'est très compliqué à expliquer. Et moi, j'invite vraiment les gens d'abord à aller lire ou se passer vraiment par le travail de toute l'équipe de Christian Cuxac, qui est le linguiste là, dont je parlais tout à l'heure, qui ont vraiment, grâce à ça, ont permis de montrer que la langue des signes française et les langues des signes ont quelque chose qui ne peut pas exister dans les langues vocales, qui permet de, quelque part, de montrer... comment nous, entendant, quand on construit une phrase, les éléments qui ne sont pas palpables, on va dire, qui sont dans notre cerveau, on s'en rend compte devant nous. Et c'est là où il faut faire attention de penser que ce sont des gestes, du mime, etc. Certes, les sourds vont s'inspirer de ces effets, mais c'est vraiment intégré dans un procédé linguistique. Et donc, il a vraiment décortiqué tout ça. Toute son équipe s'est vraiment fait des études poussées sur ce qu'on appelle des transferts de personnes, des transferts d'objets, des transferts de situations. Et il y a une déclinaison incroyable. Mais tant qu'on n'a pas plongé dans cette langue, on n'arrive pas à voir. Il faut d'un coup ouvrir les yeux. Il y a quelque chose qui apparaît. Plus on la pratique, plus d'un coup on voit tous les éléments autour de soi. Donc c'est difficile à décrire, mais moi, c'est fantastique, vraiment. C'est magique, c'est vraiment... c'est un peu infini, parfois, je me dis ça, voilà.
Est-ce que tu vois un lien entre la langue bretonne et la langue des signes française ?
Oui, dans le spectacle, justement, là, on l'a joué en version bretonne hier. Et quand j'ai travaillé donc le texte, d'abord en français, par moments, je ne trouvais pas les images, justement. Je trouvais que je ne voulais pas être plaquée sur la structure du français. Et donc, en allant dans la version bretonne, je trouvais plus d'images parce que dans toutes les langues, il y a des images. Mais peut-être aussi parce que c'est une langue que je connais mieux. Mais ça convoquait plus, en tout cas pour moi, un imaginaire. Il y a parfois certaines expressions qui ont plus une équivalence. En tout cas, l'équivalence se retrouve en langue des signes. On ne l'a pas en français. Donc, moi j'aime bien, par exemple, je fais une parenthèse, mais ma grand-mère, quand elle parle, même en français, du quotidien, des objets, elle va les rendre, elle va les animer, elle va... D'un coup, ils ont des pattes, d'un coup, ils lèvent la tête. Et en langue des signes, on peut animer un objet comme ça plus facilement. Et donc, lui donner une personnalité. Et ça, je le retrouvais en breton aussi. Donc, ça me facilite, finalement. Et en plus, ça me détache de la forme, d'éviter de coller, du coup, faire du français signé, vraiment de faire du mot à mot, mot à signe. Et donc, ça permet d'aller directement dans l'image. Mon cerveau évacue complètement les mots, on va dire. Et pour moi, c'est plus facile par moment. Je me sens plus... je ne sais pas ce qui se passe, en tout cas, mais c'est plus fluide. Et voilà, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, quelles sont les sphères qui s'activent. Mais ouais, je découvre ça au fur et à mesure.
Comment tu as rencontré le Théâtre Piba et de quelle manière est-ce que tu collabores avec la compagnie ?
Alors moi, le Théâtre Piba, je le connais tout simplement parce que c'est mon compagnon qui a fondé la compagnie avec Thomas Cloirec et son frère Erwan Cloirec. J'ai suivi tout le parcours, j'étais parmi les administratrices au tout début, puisque au début c'est une toute petite compagnie, donc c'est surtout voilà, un petit noyau qui va commencer à grossir, à grandir. Donc moi, j'avais plus ce rôle-là, et puis j'ai suivi tous les projets, etc. Mais avec toujours cette idée que, étant interprète en LSF en parallèle, je suivais ma formation, mais déjà, il y avait cette idée dans un coin de ma tête et dans celle de mon compagnon, Tony Forischer, l'envie d'amener de la langue des signes, en tout cas de rendre accessible. Et en plus, la particularité de Théâtre Piba, c'est que c'est du théâtre en breton et dans d'autres langues, avec du surtitrage, ce qui rend plus facile. Mais attention, les sourds ne sont pas forcément à l'aise avec l'écrit. Même souvent, il y a un gros souci de toute façon de pédagogie en France qui rend compliqué l'apprentissage de l'écrit. Donc, il y avait deux outils qu'il y avait à développer. Et donc, le temps a passé, les années parfois passent trop vite. Et il y a eu un moment, alors Thomas pourrait en parler aussi, parce qu'il y a eu des rencontres avec d'autres théâtres en langue minoritaire, où là, l'accessibilité et la création en langue des signes est plus poussée. Ils sont vraiment en avance par rapport à la France, hein, sur plein d'autres domaines, j'imagine. Et donc, ça aussi, réveillé un peu, réactivé cette idée, cette envie. Et il y a eu un moment où ça y est, c'était le bon moment. Et voilà, c'est parfois la vie fait que ça y est, les planètes sont alignées. Et donc le premier projet où vraiment j'ai participé d'abord en tant que collaboratrice artistique et organisatrice de l'accessibilité avec Tony, c'était de permettre à toutes les résidences pour la création de Wenchugwen, Nouveau Lactée, de permettre donc à une comédienne sourde, Tumette Léon, de vraiment faire partie de l'équipe en ayant des interprètes tous les jours en relais, pendant une semaine de résidence, par exemple. Et donc voilà, ça a d'abord été ce domaine-là, et aussi la collaboration artistique sur l'intégration de la langue des signes et du breton. Voilà, et le développement du projet sur cette pièce-là. Voilà, et puis maintenant, je ne sais pas si je peux aller dans les détails, mais en fin de compte, il y a eu besoin d'un rouage en plus pour Wenchugwen. Donc on m'a demandé d'être interprète et puis on a voulu jouer avec le détournement, casser le code de l'interprète qui est dans un coin et en faire petit à petit un personnage. Donc dans cet autre projet, je ne suis plus du tout juste interprète, je suis vraiment un personnage. Il y a vraiment de l'interaction, du jeu avec les autres. C'est étonnant, ça s'est fait de manière naturelle. Et donc pour moi aussi, ça m'a permis d'ouvrir une partie de moi qui avait besoin de s'exprimer depuis très longtemps. Et je crois que là, ça y est, c'est l'éclosion.
Et c'est par Théâtre Piba que tu as commencé à côtoyer le théâtre et la pratique du jeu ?
Non, moi je fais du théâtre depuis toute petite. Et j'avais un peu le rêve d'en faire mon métier. Et je me suis rendu compte, j'ai fait donc une formation de baccalauréat littéraire avec option théâtre. Mais vraiment, on dit option lourde, c'est un peu de moche comme nom. Mais voilà, beaucoup d'heures de théâtre. Et en parallèle, je faisais aussi des stages semi-professionnels, en tout cas avec un mélange entre amateurs et professionnels, en lien par exemple avec le TNB, à Rennes quand j'étais étudiante là-bas. Ma formation en lycée, c'était aussi en lien avec le CDDB, le Théâtre de l'Orient. Voilà, donc c'est quand même un univers qui m'attirait beaucoup. Et en même temps, je pense que je n'étais pas prête. Et puis, j'avais besoin d'un outil. Et je pense que c'est la langue des signes, et même plus que la langue des signes, c'est vraiment le métier d'interprète qui m'a donné envie d'entrer par une autre porte. C'est un petit peu par la porte de service, comme j'aime bien dire, puisque j'ai d'abord suivi qu'est-ce que c'est qu'une création théâtrale et le travail incroyable de tout un monde qui n'est pas forcément mis en valeur, la production, la communication, l'équipe technique, la création lumineuse, sonore, la création lumière, etc. Et c'est vraiment toute une fourmilière. Mais c'est fantastique hein, quand on voit le temps, la précision que ça demande. Et derrière ça, c'est quand même une économie. Donc il y a aussi toute une logique terre à terre de comment, à partir d'une idée, d'un projet, on en fait vraiment une réalisation. Donc je fais un peu ce détour-là pour dire que je suis contente d'avoir pris ce chemin-là et de revenir sur scène en tant que professionnelle maintenant, mais avec vraiment l'idée de transmettre quelque chose. L'interprète, il est juste un canal, je ne sais pas comment dire. Moi, mon métier au quotidien, je transmets des vraies paroles pour des vraies situations, avec des vraies émotions, des vraies intentions. Donc, c'est extrêmement important d'être bien formé, de bien se positionner dans sa posture professionnelle, etc., pour rester un outil. Et en fait, je découvre ce que je n'avais pas compris quand j'étais en formation, c'est cette idée d'être un outil, mais un outil artistique, etc. Et je pense que maintenant, je ne vois plus du tout les choses. Je retrouve bien sûr des choses de mon enfance dans le théâtre. Être un enfant, jouer, s'amuser, prendre une proposition, rebondir, ça c'est vraiment ce que tout le monde a vécu quand on est enfant. Faire semblant, mais en même temps c'est un peu vrai. Donc j'aime bien toujours cette complicité, mais avec le côté technique et vraiment au service d'un texte. Là, en plus, au service d'une parole, de ce que Christophe a à transmettre. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois le théâtre maintenant.
Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet, du projet Bastard. Comment est-ce que tu as cheminé dans ton travail au fil de l'eau pour apporter ta patte à cette création-là ? Comment ça s'est fait ?
Alors au départ, si je ne veux pas dire de bêtises, le projet Bastard était déjà en cours. Et donc Christophe a vu la pièce Enchouguen avec Tumette Léon, la comédienne, et moi en comédienne-interprète. Et donc il m'a demandé de participer à son projet dans l'idée de rendre accessible, que les sourds puissent être, suivre l'histoire et avoir toutes ces émotions, etc. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore conscience de toute la dimension sonore et musicale de son univers. Je le savais, mais c'était encore quelque chose qui était en cours de création. Et moi, j'étais vraiment dans le projet de Nouvelle Lactée. C'est aussi, je tiens quand même à le préciser, Théâtre Piba, à partir du moment où on s'est dit, bon, maintenant, on a montré qu'on est capable d'intégrer une artiste sourde et de rendre accessible grâce à, un peu, entre guillemets, le truchement d'une comédienne interprète. On doit pouvoir continuer à accueillir un public sourd, ce serait pas cohérent de s'arrêter là. Donc c'est un peu le service minimum, moi c'est ce que je dis. Quand il y a une interprète sur le côté de la scène, c'est le service minimum. C'est comme un sous-titrage ou un surtitrage pour une pièce de théâtre dans une autre langue. Et je pense que j'avais déjà mis le pied dedans et j'avais pas envie d'être juste, juste là pour interpréter de manière distante, en tout cas. En tout cas, ça ne fonctionne pas quand on est au théâtre, dans la mesure où c'est artistique et qu'on ne s'exprime pas. Christophe, il ne s'exprime pas de la même manière qu'à l'extérieur. Il y a des temps de parole qui sortent du quotidien, mais il y a des moments, c'est de la poésie. Et donc, forcément, je suis obligée, moi, de décider de qu'est-ce que je fais d'un jeu de mots, qu'est-ce que je fais d'une rime, etc. Et c'est là où, moi, ça m'appartient complètement. De créer, d'adapter. Et voilà, j'insiste beaucoup, la bascule entre interprétariat, interprétation et adaptation, c'est vraiment très différent. Et la deuxième étape que moi j'ai envie d'explorer et qu'on a ajouté, c'est aussi le côté plus qu'adaptation, mais jeu. Commencer à être dans du jeu avec le comédien ou la comédienne selon la création. Et ça, pour l'instant, c'est encore quelque chose qui est en... On a déjà posé, on va dire, la structure, en tout cas ce qu'on appelle les points de rendez-vous. Et je pense que c'est quelque chose qui s'affine au fur et à mesure des représentations. Et alors, la partie musicale et sonore, là, ça m'appartient complètement. Enfin, ça m'appartient. Ça me traverse, voilà. Je dirais plutôt ça. Et je pense que c'est mon parcours en danse aussi. J'ai fait beaucoup de danse. Et la musique, danser, voilà, c'est quelque chose qui m'habite. Donc, j'ai la totale liberté de rendre visuel, gestuel, des sons qui, voilà, qui, pour moi, en tout cas, se promènent dans l'air. Je les visualise. Donc, c'est pour moi de l'interprétation au sens, là, pour le coup, artistique. Voilà, il y a plusieurs pratiques qui se rejoignent dans ce projet. Et j'ajouterais aussi le chansigne, qui est aussi un art... où c'est de l'adaptation d'une chanson. Ça peut se faire dans l'autre sens, malheureusement pas assez. J'aimerais vraiment plus que ça se développe, des chansignes de sourds, sourdes, qui soient ensuite adaptées en langue vocale, en chant. Mais voilà, donc c'est aussi quelque chose qui se développe. Et moi, mon rêve, ce serait vraiment d'amener les artistes sourds et sourdes sur scène et qu'il y ait plus de création. On se mélange... que ces langues-là, elles fassent écho. Et plus je travaille, plus je me rends compte que ça vient naturellement. Dès qu'on met les choses en place, ça fonctionne. Voilà.
Alors concrètement, comment tu t'y es prise pour faire ce travail d'adaptation sur une pièce qui est plurielle, qui croise les langues, qui croise les formes narratives, les formes de récit, qui mêle de la musique, de l'instrumental et du chant? Comment, très très concrètement, tu as travaillé? Est-ce que tu t'es appuyée sur le texte de Chris Mann? Est-ce que ça, tu as mêlé ça avec des discussions? Est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans ton travail?
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'automatisme de l'interprète. C'est vraiment quelque chose qui est presque un réflexe. Parfois, c'est difficile de l'arrêter quand on a interprété pendant longtemps. Et qu'on sort d'une interprétation, on continue encore, quand on entend des voix, on continue à les visualiser, à les interpréter, on va dire, mentalement. Donc il y a un automatisme qui se fait quand quelqu'un signe et qu'on doit transmettre sa parole, quand quelqu'un s'exprime à l'oral, enfin dans les deux sens, dans tous les cas. Donc mon premier travail, il se fait déjà d'emblée parce que c'est mon quotidien d'être interprète. Donc à partir d'un texte, quand on part d'un texte, là on parle de traduction. Puisqu'on parle d'une forme fixe, posée en tout cas. Et dans l'autre sens, quand on parle de langue des signes, on va parler de forme vidéo. La traduction, c'est vraiment quelque chose sur laquelle on va pouvoir revenir, corriger, peaufiner, etc. L'interprétation, c'est du simultané, parfois en consécutif, ça dépend pour les langues vocales notamment. Et donc là, ça demande une souplesse, donc c'est quelque chose qui... un rouage, voilà, comme ça. Donc au départ, moi je me suis basée sur le texte, mais j'avais besoin aussi de la voix de Chris Mann. Donc c'est vraiment au moment où je suis allée en résidence, quand le texte était voilà, à peu près choisi, décidé, et que j'ai été sur scène, que en fin de compte, c'est en travaillant, en étant à côté de lui, que le rythme me permet de sentir... quelle durée va être ma phrase. En fait, c'est très instinctif quand même. Je pense qu'il y a des choses qui sont maintenant tellement intégrées. Tout est assez instinctif, j'avoue. Et en fait, quand j'arrive pas à entrer par la voie de l'écriture, je vais basculer vers le son. Parfois, je vais devoir découper le texte en images. Je me dis, là, il y a un tableau, ici, un autre. Donc, je vais parfois dessiner. Enfin, dans ma tête, il y a des dessins, des éléments qui se mettent, je visualise. Et puis pour ça, je demandais à Christophe, alors dans cette situation, quand tu parles de là, de cet endroit, la maison, elle était comment? Quelle couleur? Vraiment, je veux avoir tous les détails pour pareil, être au service de sa pensée, mais sa pensée visuelle qu'il n'aura peut-être pas développée, lui, dans son texte. Mais si on veut avoir la même... En gros, si on était un sourd ou une sourde et qu'on voulait l'exprimer, il y aurait forcément plus d'images. Donc je vais chercher dans lui, dans ce qu'il a vécu. Voilà, cet homme-là, il était grand comment? Il s'est tenu comment? Il a parlé comment? Et cette dame-là, comment elle s'exprimait? Donc je vais à la rencontre de personnages pas imaginaires, finalement. Il m'a montré des photos aussi. On était allé à l'EHPAD, donc on a rencontré des personnes âgées. Et donc j'ai pu voir aussi leur réaction, la manière de se déplacer. Quand il s'agit d'être dans le corps d'une chouette, par exemple, je vais regarder des vidéos pendant des heures. C'est pas du tout mental, hein. C'est vraiment de l'observation. Ah, si j'étais une chouette, comment mes ailes se déploieraient, etc. Donc c'est là où je retrouve l'interprétation, où on se met à la place de l'autre. Que ce soit un objet, un animal, une maison, voilà. C'est vraiment par différentes voies, je pense qu'on arrive à... En tout cas, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Et puis, bien sûr, les rêves. Se réveiller d'un coup, dire « Ah, mais oui, en fait, je vais plutôt le placer ici, ce signe-là, ça me permettra de faire un jeu de signes, d'aller vers la droite. Non, je vais plutôt mettre celui-là à gauche, parce que ce serait plus logique. » Donc, en fait, il y a une chorégraphie aussi. Pour avoir de la fluidité, notamment dans le rap, extrêmement. Pour moi, c'est un défi. J'ai encore envie d'aller plus loin avec la rapidité, la violence en plus du texte. Mais voilà, tout ce qui est à prendre, je le prends.
Est-ce que tous tes gestes sont répétés? Est-ce que tu as, au préalable, avant de monter sur scène, et puis dans tout ce long travail de répétition, est-ce que ton écriture gestuelle, elle est fixe? Ou est-ce que tu as à l'intérieur de la liberté que tu te laisses des marges et puis pendant le spectacle, tu te laisses aller à cette liberté-là?
Moi, je trouve qu'au départ, on est proche de la performance au sens où on s'est donné, enfin moi, je me suis donné une écriture avec quelque chose de très précis, vraiment, je suis très perfectionniste. Donc je vais vraiment chercher à aller de plus en plus, je ne m'arrêterai jamais. Donc... J'ai vraiment un canevas avec des éléments où je suis sûre que ces parties-là, je vais les faire de cette manière-là. Et d'autres endroits où je peux tourner ma phrase dans un sens ou dans l'autre. Et donc, je vais le voir au fur et à mesure du jeu. Et puis, parfois, il y a autre chose qui apparaît. Et donc là, je me laisse toujours de la liberté. Mais le piège, ça, c'est aussi mon défaut, c'est que il y a tellement de possibilités d'interprétation que parfois, on peut avoir tendance à vouloir en mettre trop. Et donc, à vouloir aller trop vite ou brouiller le message ou que l'émotion, en fait, essentielle, elle passe pas. Donc moi, c'est aussi un travail que j'apprends au fur et à mesure. C'est d'essayer de choisir le signe qui va vraiment, sur lequel il va falloir avoir le plus d'attention. Notamment quand c'est des mots puissants, des mots qui sont des mots clés dans l'histoire. Là, il faut vraiment être sûr... du signe qui va avoir le même impact pour les sourds, en tout cas, et les sourdes.
Est-ce que tu as un exemple en tête?
Je pense notamment, là c'est horrible cette image, mais une maman qui s'est défenestrée. Et pour moi, c'est évident que l'image doit être au ralenti avec le corps qui tombe et qui doit absolument s'arrêter à la fin de la phrase de Christophe et qui doit ne plus bouger pour avoir un temps sur cet arrêt, cette image, prendre conscience de ce que ça veut dire. L'humour aussi, donc pour que ça ait le même effet, on a travaillé là-dessus, sur les expressions, donc Marie-Blandine, ta chambre, c'est par là, donc on fait exactement au même moment, la même expression, parfois on décale, enfin moi j'essaye, on essaye des choses, après c'est aussi bien sûr Thomas Cloirec, donc qui voit ce qui fonctionne ou pas, on est toujours en recherche. Et voilà, des fois des petits décalages. C'est vrai que d'emblée, j'ai pas d'exemple. Il y en a tellement en plus.
Moi, j'avais en tête le moment de l'animal totem, l'aparté. Et puis, il y a eu, quand j'étais là, à assister à vos répétitions, il y a eu un moment de recherche autour de l'animal totem que Christophe croyait être un chien au départ, l'épagneul breton, mais non.
Oui, voilà, on s'amuse bien là, sur ce moment-là. En fait, comme en langue des signes, parfois, il n'y a pas toujours le mot équivalent à un signe. On va être plus dans la description. Parfois, on a le signe, épagneul, voilà. Et ce qui est parfois intéressant aussi, c'est pas forcément d'utiliser le mot, ce que je disais, le signe standard, mais d'utiliser quelque chose qui fonctionnera mieux au théâtre, avec vraiment la description de l'animal, rentrer dans son corps. Et donc, je ne sais plus comment c'est arrivé d'ailleurs. Ah oui, c'est peut-être parti de la chouette. Qu'au début, il m'a demandé c'est quoi le signe chouette pour qu'au moment où je dise mon animal totem, en fait c'est la chouette. Donc je lui ai montré le signe. Et du coup, mais au fait, comment on dit l'épagneul breton? Et donc on en a ri et puis on s'est dit, ah, il y a quelque chose à faire là-dessus. Parce que ça nous faisait rire en fait, à chaque fois que je faisais l'épagneul, ça le faisait rire. Donc voilà, on s'est dit, bah, si ça nous fait rire, faut aussi qu'on le montre. Donc voilà, il y en a d'autres là, plus ça va, plus on essaye d'en mettre d'autres, des petits clins d'œil comme ça. Moi j'aime bien, parce qu'en plus ça casse complètement le côté interprète, quoi. C'est vraiment, on transmet l'histoire, on transmet quand même l'idée, l'image, et en même temps on a autre chose, il se passe, ça se fait dans l'interaction, dans la communication entre nous. Et puis alors, j'en profite pour rendre hommage à Éric Marchand. Donc il le cite, puisque c'est lui qui lui a conseillé de choisir, en tout cas de réfléchir à l'animal totem qui lui correspondrait. Et donc moi, volontairement, je décris Éric Marchand avec ses yeux bridés, ses moustaches, etc., son chapeau. Voilà, parce qu'on a pris cette décision de pas... Moi, je dis ça et lui, il dit autre chose d'Éric Marchand. C'est pas une interprétation, voilà. Exact, mais c'est deux choses de lui que Christophe voulait transmettre. Donc, j'ai regardé plein de photos d'Éric Marchand pour essayer d'être la plus précise possible pour lui rendre hommage.
Voilà. Il y a différentes langues qui se croisent dans ce spectacle. Comment tu les abordes, toi ? On entend du français, du breton, il y a de l'anglais un petit peu, du norvégien ou un dialecte norvégien, je ne saurais pas dire. Aussi, oui. Est-ce que ça te demande un travail spécifique ? Comment est-ce que tu abordes les choses de façon à ce qu'une personne sourde ou malentendante puisse comprendre qu'il s'agit d'une autre langue ?
Alors là aussi, c'est vrai, je n'ai pas précisé tout à l'heure. Je vais vraiment montrer que je me penche, j'écoute. Tiens, il y a une personne qui est en train de parler de cette manière-là. Une vieille personne, une personne dynamique. Donc après, ça, c'est dans mon corps plus que je transmets une forme de diction. Et puis, je vais dire, la personne s'exprime en norvégien, cette personne s'exprime en français, cette personne en anglais. Et donc, une fois que je l'ai indiqué, hop, je dis ce que dit la personne. On peut aussi placer dans l'espace ce qu'on appelle une configuration personne ou personnage. Donc, je vais indiquer, pointer dans mon espace, je vais le donner son nom, etc. Cette personne, elle a tel âge, etc. Elle s'exprime dans telle langue. Et je vais basculer légèrement mon buste pour montrer que je rentre, que je deviens cette personne. Et là, je joue ce qu'elle dit. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de dire « elle parle de cette manière-ci, de cette manière-là, etc. » On le voit, en fait. Si j'étais une vieille personne, si j'étais sourde et que je racontais la même chose, je m'exprimerais comme ça en langue des signes. Donc parfois, je vais faire des signes plus mous, plus tremblants, pour montrer que c'est une personne âgée, plus tendue, etc. Donc en fait, la diction, je vais la transmettre... par les mouvements et la configuration, voilà, des signes. Après, quand c'est des langues étrangères, je vais juste indiquer c'est une langue, c'est celle-ci, c'est celle-là. Et comme moi, là, je ne peux pas transmettre les sons, parfois, je sais que certains sourds souhaitent qu'il y ait du surtitrage en breton ou du sous-titrage en breton dans les films en breton pour qu'ils puissent se rendre compte, en fait, se rendre compte de cette, un peu, cette étrangeté, de... C'est surtout l'écrit, mais ça, c'est pas mon domaine. Puis préciser, ouais, c'est ça, indiquer qui dit quoi et dans quelle langue.
T'as une grande qualité de présence et d'engagement sur scène. C'est remarquable. Je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est important ? Est-ce que tu y penses ? Est-ce que c'est une exigence pour toi ? Est-ce que, éventuellement, ça fait l'objet d'un conditionnement en particulier ? Et question complémentaire, est-ce que tu penses que la langue des signes t'aide à être aussi présente ?
Oui, complètement. Et je pense que après, c'est moi, je ne perçois pas la présence qu'on peut avoir. Parfois, je trouve l'expression un peu étrange, d'ailleurs. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas être autrement. Voilà. Et ça peut être un défaut dans le quotidien, mais quand je veux dire quelque chose, c'est forcément avec sincérité. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis, j'aime bien, ça m'émeut un peu, j'aime bien quand les autres sont émus aussi. Du coup, je trouve que quand on a des espaces comme ça au théâtre où on peut être tous ensemble et avoir des choses à se dire, c'est le moment. Il faut y être pleinement parce qu'on n'en aura pas forcément d'autres. Voilà. Et autrement, donc il n'y a aucun conditionnement, c'est là. Je ne sais plus. Ah oui, alors la langue des signes, bien sûr. Je pense que clairement, je suis devenue quelqu'un d'autre grâce à elle et grâce aux sourds et aux sourdes. Parce que j'étais assez timide. D'ailleurs, à l'oral, ça s'entend peut-être. Je ne suis pas très à l'aise. Et puis, j'ai une pensée très visuelle. Je pense que ça aussi, ça me correspond. Dans ma famille, peut-être aussi, on aime bien faire des personnages. Hein, voilà. C'est aussi une forme de langue, en tout cas de manière l'humour, etc. Donc je pense que ça correspond aussi à une structure de pensée. Moi, j'ai vraiment une mémoire visuelle, l'humour visuel, etc. Donc je me suis trouvée grâce à cette langue et je me suis autorisée plus à m'exprimer. Et l'interprétation m'a permis aussi de me donner l'autorisation parce que c'était pas moi, c'était pas ma langue. Et donc là, maintenant, c'est une nouvelle étape qui est en train de commencer. C'est que, oui, j'interprète, mais j'ai aussi quelque chose en plus à dire. Voilà.
Est-ce que tu penses que tu as une manière particulière d'aborder ton métier d'interprète ?
Dans le métier d'interprète, il y a des spécialisations. On va dire que quand on est interprète dans des villes plus grandes, il y a plus de demandes et aussi donc des domaines particuliers, des conférences, des sujets, etc. Peut-être scientifiques ou politiques, etc. Donc on voit des interprètes qui vont plus se spécialiser. Quand on est interprète, je ne dirais jamais en province, je déteste ce mot. Je ne comprends pas comment on invente un mot qui veut dire ailleurs qu'à un endroit. Donc, quand on est interprète en Bretagne, on est beaucoup moins nombreux et nombreuses. Et là, moi, parfois, j'utilise un peu l'équivalence du mot, enfin, du métier de médecin généraliste. Alors, attention, on n'est pas du tout là pour aider, soigner, etc. Au contraire, on est vraiment tenu à notre déontologie. J'en profite pour la donner. C'est la neutralité, le secret professionnel et la fidélité au message. Donc là, on est vraiment un outil. Et dans ces situations-là où les sources sont plus dispersées dans la région, en campagne, etc., on fait plus de routes et on doit s'adapter à des situations, on va dire, très quotidiennes, des démarches auprès de l'administration, beaucoup dans le domaine médical, parce que là, c'est très important de comprendre ce qui est transmis aux patients, aux patientes. Voilà, dans le domaine social, tous les domaines possibles. Et parfois, on va se retrouver dans une situation très spécifique. Quelqu'un qui travaille dans une entreprise avec un jargon très particulier, informatique, etc. Donc, on est quand même, on doit avoir une grande capacité d'adaptation. Alors, toutes les interprétations sont préparées, surtout quand il s'agit de domaines comme ça, plus compliqués. C'est aussi, je trouve, la richesse, c'est qu'on est très surprise de situations dans lesquelles on est amené à... C'est assez cocasse parfois, c'est drôle. Enfin, il y a des photos, on s'amuse entre nous. J'interprétais par un cours de yoga, un cours de kayak, plongée il y a une fois, je crois. Des choses, tout terrain. Donc, peut-être que c'est mieux dire qu'on est tout terrain.
Est-ce que tu te sens sortir de ce cadre-là quand tu fais le travail d'adaptation au théâtre ?
Oui, parce que de toute façon, on est obligé, quand il s'agit d'art, enfin, d'expression artistique, comme c'est propre à une écriture, que ce soit une écriture vraiment texte ou autre, musicale. Ce que je trouve similaire, c'est l'idée d'être là pour transmettre donc au service de autant de la personne qui est sur scène que pour les spectateurs et spectatrices. Donc là, je retrouve le rôle de l'interprète, mais comme c'est artistique, il y aura forcément des manières de transmettre différentes d'une interprète à l'autre. Et c'est là où on est obligé d'être dans une adaptation. Donc je vais essayer d'être vigilante de plus en plus à ce que ces termes-là ne soient pas utilisés, notamment dans les programmes, dans les salles de théâtre, etc. Une traduction ou une interprétation, ça n'a pas vraiment de sens, en fait, quand on parle de spectacle vivant. C'est un autre travail. Mais je me demande, est-ce que quelqu'un qui est uniquement comédien, comédienne, fait une adaptation artistique en langue des signes, je ne saurais pas dire. Le fait d'être interprète, il y a un réflexe. Et en même temps, je dis peut-être des bêtises parce que il y a des artistes sourds et sourds, des comédiens de grande qualité, vraiment. C'est tellement dommage que l'accessibilité ne soit pas assez développée en France. Du coup, on en voit peu en Bretagne, j'en connais aucun. Mais c'est tout à fait possible pour des artistes, des comédiens, de jouer en parallèle, d'interpréter un texte, de faire une adaptation du coup. Mais oui, ça n'a vraiment rien à voir avec l'interprétation du quotidien, ça c'est sûr.
Est-ce que tu t'appuies sur les retours que peuvent te faire des personnes sourdes ou malentendantes après avoir vu le spectacle ou ton travail d'adaptation au théâtre ?
Oui, d'ailleurs, même pendant le travail d'adaptation, de création, et on a besoin d'un regard extérieur. Donc là aussi, je vois avec des personnes ressources, sourdes, interprètent aussi comment telle phrase, elle l'aurait vue, etc. Donc ça m'aide aussi, ça me nourrit. Et puis après, c'est à moi de faire les choix. Mais déjà de ce côté-là, leur montrer, dire est-ce que c'est d'abord compréhensible. Et puis, comme on l'a fait là cette semaine, on essaye systématiquement, quand il y a une représentation où il y a vraiment l'organisation de la venue d'un groupe de sourds, souvent en partenariat avec l'association des sourds et sourds locales. Là, on organise un bord plateau. Et c'est là qu'on a besoin d'avoir les retours. Et dans tous les cas, même s'il n'y a que quelques sourds dans la salle, on essaye à la fin du spectacle d'aller vers eux. Qu'est-ce qu'il y a des choses, l'éclairage, telle partie. Moi, je suis demandeuse de ça. Ouais. Donc, il n'y a que comme ça qu'on avance, je pense. Voilà.
Merci. Merci beaucoup de m'avoir accordé autant de temps. C'est passionnant, vraiment. Super.